monter une start-up en profitant du chômage, je trouve que c'est une hérésie, quoi. Step numéro 1, fais en sorte de gagner ta vie. Step numéro 2, crée une entreprise profitable qui sert ton cercle proche. Step numéro 3, tu t'intéresses aux ours polaires, à tout ce que tu veux. Tu t'es déjà mis à l'abri toi, t'as mis à l'abri ton cercle proche, et ensuite tu peux réfléchir à la fin dans le monde, quoi. L'entrepreneur est de base un spéculateur, parce qu'il prend des risques. Alors que la qualité d'un investisseur se mesure plus à sa capacité à gérer son risque qu'à générer du rendement. Confucius dit dans cette idée forte justement qu'un homme a deux vies. Sa seconde vie commence quand il comprend qu'il n'en a qu'une. Oh, ma seconde vie a commencé quand je suis devenu libre, et je suis devenu libre à partir du moment où j'ai fait le choix de devenir entrepreneur en prenant un aller simple pour Tallinn et en créant ma boîte là-bas. Je sais assez facilement générer plus de 10 000 euros par mois juste avec un téléphone et une connexion internet, même avec des gens qui ne me connaissent pas. Et à partir du moment où t'as fait ça, tu sais que t'es libre jusqu'à la fin de ta vie. Il faut aussi accepter, je pense, de prendre des raccourcis que d'autres considéreront parfois comme de la triche. Et les start-upers, même ceux qui ont exit à 1 million d'euros, en général, ils ne possèdent plus que 3% de leur boîte. Et sans déconner, 3 millions d'euros en ligne, on les fait vite, quoi. Il ne faut pas avoir d'aversion à la perte dans le business, tout comme il ne faut pas avoir d'aversion à la perte dans l'investissement. En fait, c'est vraiment mettre l'émotionnel de côté, regarder uniquement tes chiffres. Est-ce que le trade-off vaut le coup? Oui, go.
En termes de chiffre d'affaires, où est-ce que tu te situes?
En cumulé les différentes boîtes, on est au-dessus.
L'argent devrait être un outil au service de votre épanouissement. C'est un excellent esclave, mais un très mauvais maître. Je suis Charles Elias Farah, conseiller en investissement financier et fondateur du Grand Bain, le média de celles et ceux qui veulent prendre une longueur d'avance dans la gestion de leur argent et le développement de leur patrimoine. Au programme, chaque semaine, on décrypte l'univers des finances personnelles, de l'investissement et de l'entrepreneuriat aux côtés des meilleurs experts. On parle des sujets qui fâchent, sans tabou ni langue de bois, pour vous transmettre les meilleurs enseignements. Dans chaque épisode, je vous emmène avec moi découvrir les principes, méthodes et outils qui vous permettront d'atteindre la liberté financière. Mener une vie riche n'a jamais été aussi accessible, alors pensez à vous abonner, c'est gratuit. Et pour aller plus loin, retrouvez des ressources complémentaires en description. C'est parti!
Dans le Grand Bain, je parle souvent de l'investissement passif, la vie des ETF, l'objectif de répliquer la performance moyenne long terme du marché, qui est aux alentours de 8% par an. Quels sont les objectifs de rendement quand on fait du value investing, et notamment sur les small caps?
Déjà, le stock picking de small cap value sur un plan indiciel bat les indices de référence depuis 100 ans. On est sur des, donc le stock picking de small cap value, si tu regardes le VBR ou des répliques, parce que ça n'existait pas encore de ce genre d'indice-là, via du Russell 2000, ce genre de choses, t'es un petit peu au-dessus des 10%. Quand sur le dernier siècle, t'es à 9,6%, il me semble, sur le S&P. Donc, globalement, t'as un delta d'un point de plus parce qu'un éléphant ne galope pas et une petite société, c'est plus efficient qu'une grosse société. Et ensuite, à titre personnel, l'idée pour battre le marché, de toute façon, tu ne peux pas battre le marché si tu as un portefeuille surdiversifié, tu vas devoir concentrer ton portefeuille sur quelques actifs et aller chercher des boîtes qui... ont une production de valeur ajoutée supérieure à la moyenne et que tu achètes en plus de ça pas cher, parce que espérer faire du 15% par an si ta société ne connaît pas une croissance de 15% par an de son capital et de son chiffre d'affaires, ça va être compliqué. Donc l'idée, c'est d'aller chercher ce genre de performance. Et après, en termes de, en règle générale, en gros, les gestionnaires actifs, en tout cas que je connais sur cette thématique des small cap value, frais de gestion déduits, ils ont atteint des performances, si on pense à Francisco Garcia Paramés, Passiavia et d'autres gestionnaires de fonds small cap value, en gros 13-15% par an. Et moi, mon but, c'est de... Honnêtement, si je suis autour des 12, je suis très heureux. Parce que mon but, c'est juste de consolider tout l'argent que je gagne dans cette stratégie-là qui, d'une part, est celle que j'ai choisie, mais c'est aussi celle qui me nourrit intellectuellement. Et donc, on est dans un processus où j'aime le processus. C'est ma manière d'investir. Ça me rend libre aussi parce que je n'ai pas à gérer un problème de locataire. C'est des boîtes qui sont partout dans le monde, qui antifragilisent vraiment mon patrimoine. Et surtout, j'adore le processus parce que ça me nourrit intellectuellement.
Tu parlais d'un portefeuille justement pas trop diversifié, relativement concentré même. Ouais. C'est combien de titres un portefeuille concentré?
15.
Et pourquoi 15? Pas 10, pas 20?
Études de Robert Ekström sur le sujet et plus donc sur la performance de concentrer un portefeuille à ce niveau-là, et en gros, par moi, le fait d'être à 14 ou 16, enfin, j'ai pas de religion, le sujet n'est pas là, mais en gros, c'est selon moi le seuil optimal pour couvrir à la fois toutes les zones géographiques et tous les secteurs, d'une manière, d'une manière à réduire assez son risque systémique, sachant que ton risque systématique est incompressible de toute façon. Mais à partir du moment où tu as diversifié à partir de 15 titres, globalement, tu arrives vers cette asymptote, je ne sais pas si tu connais cette courbe, risque systématique par rapport au nombre d'actions que tu possèdes. Et donc, c'est à peu près ce que je targetais pour, pour augmenter la performance de mon portefeuille.
Et combien de temps tu passes à gérer ce portefeuille ?
Honnêtement, aujourd'hui, plus tant que ça, parce que le portefeuille est constitué. Donc, je passe mes ordres une fois par mois. J'ouvre mon portefeuille perso une fois par mois. Mmh. Et la lecture des rapports annuels, j'ai un analyste au sein de mes sociétés qui va faire du coup tout un premier travail. Et il va venir ensuite avec des questions. Et je vais arriver aussi avec des questions sur des sociétés. Et moi, mon rôle, c'est de poser les bonnes questions, de répondre aux siennes s'il en a sur des business models ou autres. S'il y a un choix qui est en train de se valider, de lire le rapport annuel de la société en question.
Mais donc finalement, est-ce que tu fais une veille de travail sur de nouvelles actions à ajouter ou au contraire des actions peut-être à sortir de ton portefeuille ?
C'est plus une veille sur des actions à sortir. Et s'il y a des actions à sortir, à ce moment-là, on va aller chercher de nouvelles sociétés. Mm-hmm. Et en plus de ça, aujourd'hui, en ayant créé Value Investing Screener, on a au sein finalement de Value Investing Screener une communauté de gens qui screenent constamment tout le marché. Mm-hmm. Donc les opportunités exceptionnelles viennent...
Viennent de ta communauté.
De la communauté, finalement. En plus de ça, on fait quand même encore cet effort, mais le portefeuille, encore une fois, il est constitué et j'ai tendance à réduire le taux de rotation de mon portefeuille pour augmenter sa performance parce que statistiquement, c'est ce qui marche. Et donc, on n'est pas sur... moins je passe d'ordre, mieux je me porte, quoi.
Et donc, finalement, pour le particulier qui aujourd'hui voudrait se lancer, combien de temps il doit estimer passer pour construire ce portefeuille ?
Il y a un premier temps tout de même de recherche des titres. Selon s'il fait ça à la main ou avec des outils comme Value Investing Screener, ça va prendre plus ou moins de temps. Il y a ensuite un temps d'analyse qualitative des sociétés, donc d'études de chacun des rapports annuels. J'estime au moins une demi-journée par... même équipé d'un screener, en plus de ça, une demi-journée par titre. De toute façon, à partir du moment où tu mets 50 000 euros sur une action... ça vaut quand même le coup...
Proportionnellement à ton patrimoine, quoi.
Ou 10 000 balles ou 5 000 balles, ça vaut quand même le coup de lire le papier, quoi. Enfin, ça ne te viendrait pas à l'idée d'acheter un studio 50 000 euros à Lyon sans le visiter. En bourse, c'est un petit peu aussi le cas. Et tu as plein de gens qui vont mettre plusieurs milliers d'euros sur une action sans s'être penché sur le business. Et vraiment, l'image, c'est de se dire, vous achetez un appartement sans le visiter. Faites l'effort. Et vous avez peut-être même pas regarder les caractéristiques de base, s'il y a de l'eau chaude, s'il y a une toiture, prenez ce temps-là, quoi.
Ce que je trouve intéressant et fascinant et en même temps inquiétant dans l'analyse de small caps, value entre autres, ouais, c'est que ça paraît très mathématique, très rigoureux, très carré. À partir du moment où tu suis ta checklist peut-être de ratio, t'as l'impression que ça coche pas toutes les cases mais une majorité, donc je peux le rajouter à mon portefeuille. Derrière, quelle est la certitude que tu peux avoir ? Bien sûr qu'il n'y en aura pas.
Tu n'as aucune certitude. Tu n'as pas de certitude. L'analyse quantitative via les ratios, c'est que 50% du boulot. Mm-hmm. Ensuite, tu as l'analyse qualitative, donc la lecture du rapport annuel pour comprendre le processus d'allocation de la société. Comment, justement, si on prend les concepts de tout à l'heure, comment est-ce qu'elle alloue son capital en interne, d'une manière externe, d'une manière passive ? Est-ce que sa valeur intrinsèque croît ? Qui dirige cette société ? Quel est le track record de la personne en question ? T'as plein d'éléments finalement à regarder qui vont orienter ton choix, qui reste à la fin un choix
de conviction.
De conviction. Et qui est de facto pas du tout. Tu ne peux pas t'assurer de la réussite. Et sur un portefeuille, et William Higgins en parle très bien, sur un portefeuille de 20 titres, tu vas avoir 20% des titres qui vont avoir une performance dramatique. Tu vas avoir 60% des titres qui vont faire globalement comme le marché, et tu vas avoir seulement 4 titres qui vont driver la performance, qui va t'amener à avoir un excédent de performance par rapport au marché. C'est pour ça que d'ailleurs, je recommande à ceux qui ont envie de s'adonner plaisir du stock picking, de conserver leur gestion indicielle au début à 80-90%, et de ne faire ça que d'une manière...
Parcellaire,
avec cette vision de Taleb d'avoir finalement une partie sécure et une partie corps satellite sur laquelle on peut se permettre de prendre un petit peu plus de risques en allant choisir 1, 2, 3 small cap value dont on est convaincu qu'elles sont performantes et idéalement qui apportent de la décorrélation par rapport au portefeuille, parce que c'est un aspect qu'ont les small cap value, elles sont beaucoup plus décorrélées du marché que la moyenne, et c'est aussi quelque chose que j'aime par rapport à mes convictions politiques, notamment, et disons macroéconomiques, que d'avoir des choses très décorrélées pour maximiser mon antifragilité.
Et depuis que tu as lancé cette stratégie, tu as mis en place à minima ce portefeuille, quels ont été les résultats ?
Ils ont été bons. Mais après, le portefeuille a pas mal varié, puis il y a eu différentes boîtes sur... Il y a eu différents portefeuilles sur différentes boîtes. Là, en backtesting, le portefeuille sur lequel on est depuis un an, c'est du 20% par an, en gros, depuis 2019. Mais en même temps, il y a eu des très bonnes performances sur backtesting sur 2020. Donc, c'est assez difficile à dire là comme ça. Cette année, on bat pas le marché. L'année dernière, on battait de plus de 15 points le marché. L'année dernière, on était en gros à 2-3% de performance quand le marché était à moins 15 en 2022.
Mmh. 2022, oui.
Cette année, le marché était à 25 ou 24. Mmh. Et nous, en gros, on était tout juste au-dessus des 10. Donc finalement, on a un bêta qui est meilleur que le marché. Mmh. Au niveau de l'alpha, il n'y a qu'après avoir vécu 2-3 crises économiques qu'on pourra te le dire, quoi.
Oui, donc finalement, aujourd'hui, mais c'est comme tout, en fait, même une stratégie indicielle passive, on ne peut pas aujourd'hui se...
Et c'est ça, enfin, tu vois, la notion de performance, je trouve que c'est vraiment un mauvais argument. Enfin, c'est de la manualité intellectuelle que de baser ton argumentaire commercial sur la performance propre d'un portefeuille, surtout en stock picking, tant qu'il n'a pas 30 ans de vie, quoi. Et le seul qui a le droit de faire ça aujourd'hui, c'est William Higgins, quoi. Parce qu'il a vécu plusieurs crises et qu'il a montré sa résilience sur plusieurs crises. Et moi, tu vois, aujourd'hui, je suis très content de la performance qu'on a eue cette année parce qu'on l'a eue en étant exposé qu'à 10% au secteur technologique. Mmh. Et parce que je suis persuadé que si on rentre dans une récession, ce qui arrivera ou pas, mais statistiquement, de façon, avec l'échelle du temps, ça finira par arriver, je suis persuadé qu'on aura une performance bien excédentaire à celle du marché par rapport à notre exposition sur d'autres secteurs, tels que l'énergie, les matières premières, etc., ou des biens de consommation défensive. Donc, encore une fois, la qualité d'un investisseur se mesure beaucoup plus dans sa capacité à mesurer son risque qu'à générer du rendement. Mmh. Parce que c'est ce qui le fera durer. Et ce qui te fait durer aussi en tant que joueur de poker, c'est ton bankroll management, quoi. Et
c'est la capacité à rester dans le jeu suffisamment longtemps.
Et ça, c'est pour avoir à la fin un bon jeu. Et ça, c'est super dur, surtout pour un entrepreneur qui a l'habitude de prendre beaucoup de risques.
Hello, c'est Charlet. Ce que tu viens d'écouter est un extrait de l'épisode complet que j'ai enregistré avec mon invité. Donc, si tu veux écouter la totalité de l'échange, tu peux dès maintenant le retrouver sur ta plateforme d'écoute préférée. Au passage, pense à mettre 5 étoiles au podcast s'il te plaît. Ça compte énormément pour moi et ça m'aide à développer le podcast. Je te remercie d'avance et te dis à très vite pour un prochain épisode. A plus !